Paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, salut à tous. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, on est dans le paddock RMC, on est jeudi, on n'a pas eu d'épisode lundi. Bah, je vous réponds pardon, on s'excuse. Mais je vous réponds aussi que c'est pour la bonne cause parce qu'aujourd'hui on a un invité exceptionnel qu'on va vous présenter tout de suite. C'est un des plus grands espoirs du sport auto français, pilote de réserve de l'écurie Steck. Il est champion de F2 en 2023, comme Charles Leclerc, comme Oscar Piastri, comme George Russell. C'est le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix en F3 et en F2. Je vous donne pas tous les titres en karting parce que sinon on y passe tout le podcast. Et tout ça à seulement 21 ans. Théo Pourchaire est l'invité du paddock RMC. Comment ça va Théo ?
Ça va très bien, très content d'être avec vous.
Ah bah tu sais que c'est un plaisir pour nous hein, de te recevoir. T'es un peu le premier gros guest du paddock RMC, ça c'est la classe hein.
Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça.
On va bien sûr avec toi Théo débriefer ta saison qui n'a pas été facile. On va revenir sur tout ça. On imagine que tu es plein d'espoir aussi pour l'année qui arrive 2025. Et pour t'accompagner aujourd'hui, les ingénieurs du paddock RMC, tu vas voir, les mecs ils sont solides. Louis Gerbier et Hamza Rabani. Salut les gars.
Salut Nico,
salut à tous.
Ça fait du bien d'avoir un petit invité les gars dans le paddock là parce qu'on fait des débats dans tous les sens et tout. Mais là une petite interview, on n'avait pas encore eu ça, ce format là.
Ouais, carrément. Bah après, un petit invité, Théo, il est grand quand même.
Oui, c'est vrai.
Je suis grand.
Parce que tu mesures combien, Théo ?
Et moi, je fais 1m90, donc pour un pilote, c'est très grand et très peu confortable. Je dois vous avouer que dans toutes les voitures dans lesquelles je suis monté, c'est assez compliqué.
J'avoue que pour rentrer dans une monoplace, déjà, tu passes 25 minutes. Rien que pour t'installer, ça doit être un enfer.
Exactement, c'est ça, c'est pas confortable, mais bon, le confort c'est pas ma priorité, je suis content de rouler et d'être pilote, donc pour moi ça va très bien.
Bon bah c'est très cool, en tout cas les amis, si vous aimez ce podcast avec Théo, bien évidemment vous nous faites des retours, vos commentaires, vous nous mettez une note super importante, je vous le dis à chaque fois mais c'est vraiment très important, et puis venez interagir hein, avec Théo, on partagera ce podcast avec lui, donc n'hésitez pas à venir lui poser des questions aussi sous la publication de ce podcast. C'est parti pour le paddock RMC les gars.
Théo Pourchaire avec 10 podiums cette saison, une victoire. Il est le champion de Formule 2 2023 et entre donc dans la légende de ces pilotes français. Bravo Théo, et oui on sent l'émotion, il est le champion 2023 de Formule 2.
Le paddock RMC.
Bon Théo Pourchaire est notre invité et on va revenir sur cette saison 2024 qui est particulière pour toi Théo puisque tu as terminé 2023, je le disais, sur un titre de champion en F2. T'as pas eu l'opportunité d'avoir un baquet en Formule 1, du coup tu as fait le choix de partir au Japon. Tu n'as disputé qu'une seule course en Super Formula et puis l'opportunité de rouler en IndyCar où là tu as disputé 5 Grands Prix avant de te faire éjecter de ce championnat qui te plaisait bien, donc on va bien sûr revenir sur tout ça. Déjà la première question Théo, c'est que tu n'as plus de volant depuis le 18 juin je crois, comment ça se passe, comment tu vis ça? Ça doit être très compliqué quand on sort d'un titre en F2 comme toi, qu'on est plein d'appétit, plein d'ambition, qu'on rêve de Formule 1, de ne pas rouler, ça doit être quelque chose de très dur.
Ouais, franchement moi c'est très compliqué cette saison. C'est vrai, en plus je sors d'un titre de Formule 2, ce qui est top. Franchement c'était un rêve pour moi d'être champion de Formule 2 et je pensais qu'après ça allait dérouler après ça, mais c'est pas le cas. Et le sport automobile, on le sait hein, c'est très compliqué, surtout la Formule 1 d'accès, c'est un sport très fermé. Mais bon, je pense avoir le palmarès pour au moins avoir une chance, au moins avoir une opportunité de pouvoir me montrer. Mais malheureusement, ouais, c'est la première saison que ça m'arrive de pas avoir de volant à temps plein. C'est vrai que j'ai commencé le sport automobile. Moi, j'avais 3 ans. J'étais hyper jeune. Par au début, enfin voilà, c'était vraiment pour s'amuser. Après, c'est devenu une passion et toutes les saisons j'ai roulé, que ce soit en karting, en monoplace, j'ai toujours eu quelque chose. Et cette année, c'était vraiment une opportunité par-ci, une opportunité par-là. Et puis ensuite, ça s'est arrêté malheureusement à l'IndyCar où j'étais très content. Et j'avais un super volant. Et donc là, voilà, je suis pilote de réserve, bien sûr, toujours en Formule 1. Mais pilote de réserve, on sait que c'est pas forcément du roulage, c'est vraiment que de l'attente et du simulateur. Donc pour moi, c'est une saison ouais, compliquée.
3 ans. Non, mais moi, les gars, à 3 ans, j'étais en train de me demander ce que je faisais à 3 ans. C'était pas glorieux, à mon avis. Hein. Je sais pas vous, Hamza et Louis, mais.
Vas-y, j'en prie, Louis.
J'avais aucune idée, mais sûrement quelque chose de moins glorieux aussi, ouais, également.
Louis, bah voilà, Théo en parlait. On va revenir sur cette saison de Théo. Déjà, cette opportunité de rouler au Japon en Super Formula, ce qu'avait fait Pierre Gasly par le passé, notamment Louis, c'était un choix que nous on trouvait plutôt bon, les observateurs, parce que c'est des voitures qui correspondent bien à la F1. C'est aussi un championnat qui est bien regardé par tous les patrons d'écurie de Formule 1. Donc on se disait que c'était une belle opportunité pour Théo, hein, après ce titre en F2.
Bah oui, parce qu'il faut savoir, en F2, du coup, c'est on considère que quand tu as fini le jeu, tu ne peux plus le refaire. C'est-à-dire que si tu es champion, tu peux pas refaire une année dans la catégorie. Donc ça arrive souvent quand c'est bouché au-dessus, dans la catégorie au-dessus, c'est-à-dire la F1, et ben que le, malheureusement le pilote champion doive trouver une alternative. Et le Japon, c'est souvent une bonne alternative. On l'a vu, comme tu l'as dit, avec Pierre. En revanche, ce qui est très compliqué, c'est que bah, le Japon, c'est bête à dire, mais c'est loin et c'est pas du tout le même monde. Donc quand t'as 20 ans, je sais pas Théo si t'es d'accord avec ça, mais ça doit pas être quand même hyper facile de s'adapter à... Alors toi, pour toi, ça a été assez court, mais ça doit être compliqué, non, quand même, d'arriver au Japon comme ça avec tes valises et de monter dans un baquet.
Ouais, clairement. Pour moi, c'est clairement un autre monde au Japon. On se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est quand même très très à part. Et puis voilà, personne parle anglais. C'est très loin. J'étais très loin de ma famille, tout ça. Ouais. Après, pour moi, c'était une bonne opportunité, mais on va dire que c'était vraiment la seule opportunité que j'avais durant l'hiver. Et du coup, je me suis tourné vers ça. Il restait plus que cette équipe en Super Formula, qui était une équipe qui avait eu des bonnes saisons, qui a déjà été championne dans ce championnat, mais qui galérait un peu plus ces dernières années. Et bon, quand j'étais dans la situation de il faut que je fasse, il faut que je prenne une décision, il faut que je fasse au moins un petit peu quelque chose, voilà, cette course en Super Formula, c'était une bonne opportunité. Après, j'ai eu la chance d'être appelé par McLaren, que pour quelques courses malheureusement, mais ouais. Mais voilà, c'est vrai que le Japon, ouais, pour revenir sur ça, c'est un monde à part, hein. Vraiment, personne parle anglais, la communication est très compliquée. En fait, voilà, c'est vraiment un championnat 100% japonais, quoi.
Et purement techniquement, excuse-moi Nico, purement techniquement, ouais, vas-y. La Super Formula, c'est quoi les sensas au volant quand tu viens de la F2, tu gagnes en vitesse, en quoi tu perds, quelles sont un peu les différences entre la course automobile qu'on connaît un peu, nous qui écoutons, auditeurs du paddock, et la Super Formula, quoi.
Bah, franchement, moi, je pense que j'ai un bon point de vue de ce côté-là, parce que je suis un des seuls pilotes qui a eu la chance de rouler un petit peu en F1, F2, Super Formula et IndyCar, ouais, sur les, on carrément. Va dire, en 6 mois, quoi. Du coup, j'ai eu cette opportunité-là. Je peux comparer les meilleures voitures, on va dire, du monde, quoi, en sport automobile. Et la Super Formula, vraiment, c'est une très bonne voiture. C'est pas très puissant. Mais par contre, c'est niveau aéro et grip, hein, qu'on peut ressentir. Ouais. C'est un truc de fou. Franchement, ça va aussi vite qu'une Formule 1 sur un circuit de Suzuka dans les virages rapides. Après, bien sûr, comme j'ai dit, en moteur, c'est plus lent qu'une F1. Mais c'est un bon championnat, je pense. C'est vrai que si un pilote est bloqué à la sortie de la F2 et peut trouver une très bonne équipe de Super Formula, je pense que c'est un bon championnat pour attendre.
Ouais, ok.
Il y a quand même un truc de dingue dans ce que tu nous racontes, Théo. Alors moi, je suis moins spécialiste que vous, les gars. Hamza, tu vas me répondre, mais c'est quand même ouf que le champion de F2 ait aussi peu d'opportunités. Alors je sais que c'est un peu le mal de la F2. C'était le cas aussi avec la Formule 3000, où il y a plein de champions qui n'ont pas trouvé de baquet derrière. Mais c'est dingue.
Ouais, mais ça, c'est un autre débat. On en aurait pour 3 jours. Aujourd'hui, tu te rends compte que Théo Pourchaire, champion de F2, n'a pas de baquet. Tu te rends compte également que Felipe Drugovic, champion de F2, n'a pas de baquet. Tu t'aperçois qu'Oscar Piastri a dû attendre un an avant d'arriver en F1 et pas au sein de l'écurie qui a financé sa formation. Oui, la question c'est à quoi sert la Formule 2. Je ne vais même pas rentrer dans les polémiques, les difficultés moteurs ou le hasard moteur qui fait que certains, bizarrement, du jour au lendemain, se retrouvent avec des moteurs extrêmement puissants et des monoplaces du coup plutôt performantes. Mais c'est vrai que ce championnat aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus critiquable, alors que le fait d'avoir mis la F2 sur les week-ends de course de Formule 1 quelques années était une excellente décision, parce que ça permettait du coup à tout le monde d'être regroupé au même endroit, et du coup aussi aux écuries de voir, et aux patrons d'écuries de voir justement les jeunes pousses.
Ouais, c'est clair. Bon, Théo, parle-nous aussi de cette opportunité. Donc, du coup, tu fais une course en Super Formula. Ça se passe d'ailleurs pas super bien. Et très vite, tu as l'opportunité des États-Unis et de l'IndyCar avec Arrow McLaren. Et là, c'est une opportunité que tu peux pas refuser. Hein.
C'est l'opportunité que je pouvais pas refuser, clairement. Voilà, c'est venu au bon moment. C'était vraiment quand j'ai reçu l'appel. J'étais super heureux. Et puis pour moi, voilà, c'est une opportunité. Vraiment, l'IndyCar, j'ai toujours voulu en faire. Je trouve que c'est un championnat vraiment incroyable. C'était une expérience folle. Et puis ça se passe plutôt bien. Au début, je suis appelé vraiment pour une course. Ensuite, il y a une course qui suivait juste après. Le pilote qui était blessé, c'était sûr qu'il ne pouvait pas rouler. Donc j'étais quasiment sûr de pouvoir faire les deux courses. Et après ces deux courses, on m'a dit qu'on allait signer un contrat et voilà, essayer de faire la saison jusqu'au bout. Donc moi j'étais super content, je me suis dit voilà, là c'est bon, j'ai un bon programme, l'IndyCar avec McLaren en plus, qui est une bonne équipe. Puis malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé, voilà, on m'a remplacé après 5 courses. Voilà, c'est triste, c'est comme ça. On m'a pas forcément donné beaucoup de raisons, mais bon, après ils m'ont donné l'opportunité. Et donc j'en suis content toujours d'avoir pu me montrer à ce niveau-là, mais comme j'ai dit, aussi déçu d'un côté, parce que maintenant je me retrouve vraiment sans rien, et c'est tombé au pire moment, je pense, de se faire virer en milieu de saison.
Mais je crois qu'ils n'avaient pas trop en fait d'arguments à te donner, Théo, parce que dans toutes les interviews que j'ai lues, c'était non mais c'est pas contre Théo, c'est pas personnel, c'est juste qu'on avait l'opportunité de faire signer un jeune pilote américain et que c'était une opportunité pour laquelle on pouvait pas passer à côté de ça, quoi. Mais sinon ils n'avaient rien contre toi, c'est ça qui doit être encore plus dur à digérer.
Ben ouais, c'est très dur à digérer parce que clairement moi j'ai pas eu d'informations de ce côté-là. On m'a pas du tout dit quoi que ce soit. On m'a juste dit que j'allais pas rouler à la prochaine course et que c'était fini à partir de ce moment-là. Donc voilà, moi je m'apprêtais à aller à la prochaine course. C'était un jour avant de prendre l'avion. Je me dis qu'est-ce que j'ai fait. Ouais. Voilà, les résultats étaient vraiment plutôt bons au sein de l'équipe. Tout le monde le savait que je faisais du bon travail. Et pour moi, c'était, en plus, je suis arrivé milieu de saison après trois courses déjà, ou deux ou trois courses. Donc sans essai, c'est à chaque fois des nouveaux circuits. L'IndyCar, c'est vraiment un championnat compliqué. C'est pour ça que j'ai bien aimé. C'est dur physiquement, c'est dur mentalement. C'est des circuits très techniques. Mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de courir plus longtemps là-bas. Mais ouais, c'est frustrant. Franchement, c'est très frustrant.
Hamza, c'est quoi un peu, enfin Théo il va nous répondre aussi, mais moi tu vois l'IndyCar, je trouve que c'est ultra spectaculaire, mais bon, il y a une ambiance particulière, tu vois, quand tu vois des courses d'IndyCar, t'as l'impression que là-bas c'est quelque chose vraiment à part.
Ouais, bah c'est le championnat des États-Unis. C'est le championnat des États-Unis avec des pistes qui n'ont rien à voir avec celles que l'on peut voir en Formule 1. Et effectivement, j'ai l'impression, parce que ce n'est pas le premier, je me souviens des reportages autour de Romain Grosjean notamment, les pilotes habitués justement à la Formule 1 appuie souvent sur l'aspect physique de conduire dans le championnat d'IndyCar. Et c'est vrai que c'est là où j'ai envie de venir sur cet aspect avec Théo. Tu as été propulsé du jour au lendemain du coup à Long Beach. Il n'y a pas eu, j'imagine, de préparation particulière pour le championnat d'IndyCar. Première course, tu fais, je crois, 11e aux portes des points. À ce moment-là, on se dit forcément que ta saison, on est parti d'un presque fiasco en Super Formula, une possible saison blanche, à une renaissance et une belle saison qui t'attendait chez McLaren. Alors, tu ne nous as pas donné les raisons, manifestement, McLaren ne t'a pas donné non plus les raisons. Mais qu'est-ce que toi, tu tires de cette expérience, justement, aux États-Unis ?
Ouais, c'était une expérience plutôt positive, parce que voilà, c'était aussi un rêve de pouvoir rouler en IndyCar un jour. C'est vraiment un championnat qui m'attirait beaucoup, notamment parce qu'ils ont aussi les Indy 500, hein, qui est une des plus grandes courses du monde. J'ai pas pu la faire aussi parce qu'il fallait une licence spéciale, et vu que je suis arrivé en dernière minute, ils avaient mis un autre pilote à ma place. Mais ouais, c'est un championnat très physique. C'est vrai que j'ai été notifié assez tard pour faire la course de Long Beach, Et quand je, enfin, je me rappelle hein, de quand je suis arrivé à Long Beach, je crois que je faisais 68 kilos, un truc comme ça. Et au bout de deux mois aux États-Unis, j'ai fait, ben là, je fais 75, 77 kilos, je crois. Donc j'ai quasiment pris, j'ai pris 10 kilos hein, en 2-3 mois. Donc ouais, ils m'ont mis dans la salle de sport, ils m'ont pas lâché. Ils m'ont dit là, faut vraiment s'y mettre. Et c'est vrai que c'est vraiment physique, mais c'est surtout qu'on n'a pas de direction assistée. Il y a aussi l'aéroscreen en IndyCar qui est un peu un halo hybride en fait entre une hypercar et une F1. Donc on a quand même un pare-brise, mais on n'a pas d'air, hein, il n'y a vraiment pas d'air, il fait super chaud. Et ouais, non, c'est très physique. Puis c'est des circuits où il y a beaucoup de bosses, on ne fait que tourner. C'est vraiment des circuits américains qu'on ne connaît même pas en Europe. Donc, mais c'est ça qui est sympa. C'est ça qui est sympa. Il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de. C'est une intensité folle en fait, le sport aux États-Unis et notamment l'IndyCar.
C'est une expérience qui va te servir dans ton objectif Formule 1, tu penses, au niveau du pilotage, même cette prise de masse, cette approche de la compète qui est différente?
Ouais, franchement, ouais, ça va forcément m'aider. Ça, j'ai appris plein de choses. Et puis, c'est une façon de travailler aussi légèrement différente hein, par rapport à la Formule 1 ou par rapport au sport automobile en Europe, comme ce que j'ai appris au Japon en une course. Mais j'ai fait plusieurs essais aussi au Japon. Donc, j'ai pu apprendre différentes choses. Et je peux voir un peu les défauts qu'il y a aux États-Unis, au Japon ou en Europe, et aussi les qualités de chaque culture un peu. Donc, ça m'apprend. C'est sûr que j'ai eu la chance un peu de découvrir d'autres cultures, découvrir un peu d'autres façons de travailler. Donc pour moi, c'est que du positif. Et j'espère bien sûr pouvoir le mettre en œuvre au plus haut niveau.
Et je me souviens, il y a quelques semaines, j'avais fait un entretien avec Isaac Hadjar et j'ai l'impression qu'il y a une similitude aussi dans le discours. Est-ce que le Théo Pourchaire aujourd'hui, fin 2024, qui a probablement connu la saison la plus compliquée de sa carrière, est-ce qu'il n'est pas plus fort que celui de fin 2023 avec toutes les expériences différentes et difficiles que tu as pu avoir?
Honnêtement, je pense que je me sens beaucoup plus mature aujourd'hui qu'il y a un an, clairement. Alors que pourtant, il y a un an, je gagnais des courses, je gagnais un championnat. Voilà, au mois de novembre, j'ai été champion de Formule 2. Mais aujourd'hui, ouais, en 2024, on est en octobre, je me sens beaucoup plus mature, j'ai appris beaucoup plus de choses. J'ai appris aussi à penser différemment dans les moments compliqués et je me sens beaucoup plus prêt à monter dans une voiture et à tout donner. Parce que maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est vrai que j'ai pas grand-chose. La moindre opportunité qu'on va me donner, je vais la saisir et je vais tout donner. Donc voilà, j'ai aussi développé cette qualité qui est super importante de s'adapter rapidement. Et je pense que ça va me servir, c'est sûr.
Et justement, tu parles de l'adaptation. Moi, il y a un point qui me semble essentiel et on le voit en cette saison 2024 en Formule 1. Je repense forcément à l'Arabie Saoudite avec l'arrivée d'Oli Berman du jour au lendemain, dès le samedi matin, alors que le vendredi, il faisait ses qualifs en Formule 2 qui arrive du jour au lendemain chez Ferrari et qui fait une course, un week-end même très très solide pour une première, encore plus. Et je sais que tu connais ce circuit de Jeddah, un circuit extrêmement compliqué. On a aujourd'hui Franco Colapinto qui aussi performe tout de suite chez Williams. On a l'impression en fait, Théo, que ces jeunes pilotes sont de plus en plus préparés alors qu'ils ont de moins en moins de roulage finalement en Formule 1. En fait, tout ce qu'il faut, c'est te donner ta chance aujourd'hui.
Exactement. Franchement, c'est, je le vois, hein, je le vois. Moi, je suis en pilote de réserve sur les courses. Je suis allé à Monza et en Azerbaïdjan. Notamment, voilà, j'ai vu en Azerbaïdjan, même à Monza, hein, Colapinto et Birman monter dans les F1 et faire des bons résultats. Je sais que c'est des bons pilotes, c'est des très bons pilotes, mais ouais, c'est des pilotes que je me battais avec
et que j'ai
battu. Voilà, après c'est des catégories différentes. Je les ai battus en Formule 2. Peut-être que je ne les battrai jamais en Formule 1 si on me donne l'opportunité. J'en sais rien justement. Le but c'est de me donner cette opportunité pour voir. Je pense avoir tout fait mon maximum moi de mon côté. J'ai pas été parfait. Ça c'est une certitude, mais je pense que personne ne l'est. Donc c'est vrai que aujourd'hui l'opportunité c'est vraiment la clé. On l'a vu avec Berman. Je pense que s'il avait peut-être jamais eu cette opportunité à Jeddah, peut-être qu'il serait jamais là en Formule 1 avec une deuxième saison de F2 aussi catastrophique hein, pour lui. Et c'est vrai que d'être 15e du championnat, voilà, c'est pas bon. Mais il a eu son opportunité et il mérite sa place, on le voit bien.
Mais la différence entre le pilote qui te remplace en IndyCar et ceux qui sont cette année entrés en F1, finalement, elle se passe pas. La différence, elle est pas dans le baquet, elle est plus dans les sponsors ou dans les sous. C'est un peu là où ils sont peut-être, ils ont un voire deux temps d'avance sur toi, non?
C'est la bonne question. Je pense que ça, c'est un sport, malheureusement, le sport automobile,
tout
on le sait
corrélé.
Tous.
Bah ouais.
Et c'est beaucoup, on sait que c'est un sport très coûteux. Dès le plus jeune âge, de toute façon, pour commencer ce sport, même dès le karting, ça coûte beaucoup d'argent. Après, malheureusement, c'est vrai qu'en tant que champion de Formule 2, je ne devrais pas trop me poser cette question. Je pense que c'est le but, c'est d'avoir fait ma carrière. J'ai eu l'aide de l'équipe Sauber en Formule 1. J'ai eu l'aide de la Fédération française, l'aide de ma famille. J'ai eu des sponsors aussi qui m'ont aidé à tous les niveaux et qui ont été super importants. Ça, c'était le travail à faire. On l'a fait, quoi. Maintenant, ouais. De devoir chercher des sponsors ou emmener du budget pour aller plus haut, je pense que là, c'est impossible, moi, de mon côté. Donc, voilà. Ça, c'est... Après, voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres pilotes, mais bon, c'est dommage.
Du coup, est-ce que tu ressens un peu d'impuissance, Théo ? Parce que là, tu donnes, sur la piste, tu donnes tout ce que tu peux. Quand tu as eu l'opportunité de monter dans des voitures qui pouvaient gagner ou de faire des perfs, même en IndyCar, avec très peu de temps d'adaptation, tu as réussi à être bon. Donc, sur la piste, tu donnes tout et tu réponds présent. Tu nous dis qu'en coulisses, vous avez fait le max et que ça va être compliqué de faire plus. Est-ce que tu ressens un petit peu d'impuissance ?
Un petit peu, forcément, parce que c'est à la fin, j'ai montré ce que je valais sur la piste. J'essaye de me défendre un maximum dans les discussions, d'essayer de me promouvoir et d'essayer de dire à ces personnes que je mérite ma chance. Mais à la fin, c'est pas moi qui prends la décision, c'est pas mon manager, c'est pas ma famille. À la fin, on est obligé d'attendre. Et puis, c'est moi qui me retrouve actuellement sans rien. Donc, c'est compliqué. On se sent impuissant, forcément. Mais je ne pèse pas les bras. Et je donne tout, hein, tous les jours. Je continue à m'entraîner. Je continue à tout donner là où je peux m'améliorer en ce moment. Et puis, quand j'aurai une opportunité, j'essaierai de tout donner.
Alors, j'aimerais savoir ce qui s'est passé potentiellement ou pas cet été avec, on le rappelle, chez Futur Audi, Sauber, je ne sais pas comment il faut l'appeler aujourd'hui, mais l'arrivée de Mattia Binotto. On a l'impression, en tout cas, arrête-moi si je me trompe, Théo, en tout cas, dans les noms qui étaient relayés à l'époque, l'été dernier notamment et avant, même au printemps, pour être coéquipé de Nico Hülkenberg, alors que tu es le pilote, on le rappelle, réserve, donc naturellement le jeune pilote sur qui Sauber a mis de l'argent justement pour financer ton développement et avec, logiquement, à terme, une conséquence, une place en Formule 1. Ton nom n'était pas trop sorti à l'époque. Il y avait des noms à droite, à gauche, plus ou moins prestigieux. Carlos Sainz, paraît-il, était le plan 1 pendant très longtemps. Et puis... arrive Monza, où on te retrouve du coup sur le paddock. Mattia Binotto, à ce moment-là, est présent également. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Est-ce qu'on t'a donné des... peut-être pas une assurance, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'assurance ne veut absolument rien dire, que la parole ne veut rien dire en Formule 1, mais est-ce qu'on t'a redonné de l'espoir à ce moment-là ? Est-ce que tu étais totalement écarté avant ou pas du tout ? Toi, tu te considérais quand même dans la course pour 2025 chez Sauber.
C'est vrai que j'ai pas trop été... tenu au courant en début d'année, on va dire. J'étais pas trop dans les discussions. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée de Mattia, il y a un peu de différence. En tout cas, je me sens considéré, ce que j'estime un peu le minimum, surtout en étant champion de F2, mais pas que champion de F2. J'ai fait aussi des très bonnes années depuis le début. Je fais partie de la Sauber Academy depuis plus de 4 ans. Donc, j'ai fait énormément d'heures de simulateur pour cette équipe de Formule 1. J'ai fait beaucoup quelques séances d'essais libres en FP1 notamment. Donc, je pense que d'être considéré, c'est le minimum. D'être au moins faut être écouté et que je puisse donner mon avis et au moins me défendre. Mais bon, pour le moment, ça reste un peu flou. On va pas se mentir. Et je pense que l'équipe n'a toujours pas fait son choix. Mais, j'espère pourquoi pas que être leur choix, en tout cas, on va voir, hein, ouais. mais ça risque d'être compliqué quand même.
Mais qu'est-ce que toi tu peux faire ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que toi tu peux faire ? Alors, les noms aujourd'hui, on parle d'un Bottas qui est titulaire et qui est présent en Formule 1 depuis une dizaine d'années. Colapinto qui est présent aujourd'hui depuis cet été. Toi, tu ne roules pas. Donc, qu'est-ce que toi tu peux faire pour dire à Mattia : écoute, je suis présent, donnez-moi ma chance et je performerai.
Moi, ce que je peux faire, c'est de lui dire que je mérite ma chance, aussi de regarder mon âge, ma carrière. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque, majeur à me prendre pour une année. Je pense que la transition vers Audi se fera en 2026. L'an prochain, ça ne sera toujours pas Audi, ça sera toujours Stake F1 Team. Voilà, je pense que il y a pas de risque, il y a pas un risque à me prendre de prendre un champion de F2 dans son équipe, surtout quand je pense qu'en pilote numéro 1, on a un Nico Hülkenberg qui a signé dans l'équipe. Je pense que c'est le meilleur pilote du milieu peloton actuellement. Non, il y a pas de risque. Moi, j'essaye de me défendre comme ça. Après, voilà, c'est pas moi qui prends la décision. Je ne sais pas les contraintes qu'ils ont derrière. C'est pas moi qui gère cette équipe. Donc voilà, comme j'ai dit, mais je me sens impuissant, ça c'est sûr.
Est-ce que d'ici la fin de saison, t'as un FP1 chez Sauber, chez Steck ou c'est pas prévu?
Pour le moment, c'est pas prévu. Je pense que la décision va se faire très prochainement parce que quoi qu'il arrive, faut prendre une décision pour ils ont déjà fait
pour
une FP1.
Pour prendre les billets d'avion.
Déjà. en termes d'organisation, je pense que c'est assez important. C'est vrai que pour Bakou, moi, on m'avait prévenu au dernier moment pour y aller déjà. Donc, ouais.
Sans rigoler, en fait, ça te met dans un truc. Enfin, quand tu dois performer, t'as une chance dans la saison. Si on peut te prévenir un peu avant pour arriver dans les meilleures conditions, c'est pas mal aussi, quoi.
Ben, c'est ça, exactement. Surtout que j'ai pas roulé depuis un bon moment. Pour faire du simulateur, pour se remettre dans le bain, c'est hyper important. Mais bon, ça c'est à eux de faire leur décision, hein, ouais. de prendre la décision. Ils ont déjà fait une FP1 avec Robert Schwartzmann à Zandvoort. Ouais. je pense qu'ils ont plus qu'une FP1 à faire. Hein.
Mais je rigole parce que Robert Schwartzmann, c'est pas un pilote Sauber en fait. C'est pas un enfant Sauber.
Ah ouais, c'est ça.
Tu vois, je veux dire, t'as Théo Pourchaire et t'as aussi Zain Malouni. Donc tu les as si tu veux, tes deux poulains. Ouais. Et en fait, à aucun moment tu vas les considérer pour mettre celui de l'Académie Ferrari. Et manifestement aujourd'hui, il est pas non plus dans les plans. Donc, il reste une seule session pour un jeune pilote, sachant que t'as les courses sprint. En fait, si tu procèdes par élimination, en fait, il reste très peu de choix possibles sur les dernières courses de la saison. Mais bon.
Ouais, il en reste deux. Hein. Je pense clairement, il reste Mexico et Abu Dhabi. Voilà, ils ont plus que deux FP1 à faire pour un jeune pilote. Ouais. Après, ils ont. Je pense qu'ils attendent de faire leur décision. Ça dépendra du pilote qu'ils vont prendre. Si c'est un jeune pilote, ils le mettront forcément durant les FP1. Si c'est un pilote plus expérimenté, bon, si c'est par exemple Valtteri Bottas, il n'y a pas besoin parce qu'il roule déjà. Si c'est un autre pilote qui a déjà fait de la Formule 1 et qui n'est plus considéré comme rookie, c'est sûr que il faudra forcément faire une FP1 rookie pour une deuxième FP1 rookie pour un pilote, pour un jeune pilote. Le pilote qu'ils prendront, ils le feront rouler au rookie test.
Du coup, Théo, si jamais la Formule 1, ça se goupille pas, qu'est-ce qui te fait envie pour 2025? Déjà, on imagine que tu as envie de faire une saison pleine. On imagine que tu as envie de rouler, tout simplement.
Bien sûr. Je pense que là, à ce niveau-là, là, moi, mon souhait, c'est de rouler. C'est de rouler, c'est de faire quelque chose qui me donne envie et qui me fasse plaisir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de catégories qui me feraient plaisir. Donc, bon, c'est sûr que j'oublie pas la Formule 1. Ça, c'est le rêve ultime. L'IndyCar, moi, ça me ferait extrêmement plaisir.
T'as eu des contacts en IndyCar ou pas du tout, franchement?
Est-ce que t'as fait? Bah, j'ai eu beaucoup de contacts, énormément de contacts même. Malheureusement, c'est un, on va dire, une catégorie aussi très difficile d'accès niveau budget. On va pas se mentir, y a beaucoup, ça rentre beaucoup en compte. Surtout pour l'an prochain, il y a un système charter qui a été mis en place. Ça a un peu changé la donne. Et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué d'avoir des opportunités en IndyCar. Après, moi j'ai ça, j'ai l'endurance que j'aimerais bien faire. Hypercar, c'est vrai que ça donne envie, ça donne extrêmement envie. Pour moi, ça, c'est je pense, la catégorie qui est en train d'évoluer le plus sur la planète. On voit qu'il y a quasiment tous les constructeurs qui veulent s'y mettre. C'est des bagarres assez serrées, c'est un beau championnat. Donc moi ça me donne envie aussi. Je vais voir ce que j'ai sur la table en opportunité. Qui peut aussi être un bon projet à long terme. Il faut que je prenne la meilleure décision pour ma carrière, pas que pour l'an prochain, mais sur le long terme.
Ouais, parce que tu dirais que t'es un premier gros tournant de ta carrière. Alors il y en a déjà eu par le passé, mais j'ai deux questions en une. Du coup, est-ce que tu penses que 2025 c'est un tournant, et est-ce que du coup tu regrettes un petit peu certains choix après 2023, même si tu nous as dit que t'avais plus subi les choses et choisi par défaut que vraiment t'avais pas de possibilités multiples, donc t'as fait ce que t'as pu. Mais est-ce que t'as des regrets un peu sur la fin de 2023, et est-ce que tu considères que début 2025 là c'est vraiment un gros tournant?
J'ai pas de regrets parce que c'est vrai qu'au final on a fait comme on a pu, c'était comme ça quoi. J'étais lié à Sauber, j'étais aussi champion de F2 assez tard dans l'année, il y a plus beaucoup d'opportunités. Donc ça, on a fait comme on a pu, j'ai pas de regrets. Mais 2025, est-ce que c'est un tournant ou non? Je pense pas forcément, parce que la chance que j'ai, c'est que c'est vrai que je suis toujours très jeune, toujours voilà, avec un, le palmarès il bouge pas. Il faut juste que je puisse rouler pour me montrer et continuer à gagner des courses et à me montrer aux yeux du monde quoi. Donc ça, après, c'est pas simple, faut trouver la meilleure opportunité possible.
Ouais, Louis.
Non, juste avant Nico, je voulais juste te demander, Théo, est-ce qu'il y a, donc c'est il y a deux ans à peu près, il y a une période où t'es bien chez Sauber, et est-ce que le départ de Fred Vasseur de l'écurie, du coup, à ce moment-là, toi, tu te dis, oups, là je perds un allié, c'est un coup dur pour toi, ou vraiment rien à voir, ça se passe ailleurs?
Je pense que clairement, le fait que l'équipe ait aussi changé beaucoup de personnel, ouais. Et de voilà, ça a changé beaucoup de patrons de l'équipe. Hein. En deux ans, on a eu trois patrons différents. Je pense que ça aide pas, c'est certain. Clairement. Voilà, puis il y a eu le rachat Parodi, ça a changé énormément aussi. Donc moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'étais lié à Sauber. J'ai mon propre manager, je suis lié à Sauber, donc je n'étais pas lié à Fred Vasseur, mais bon, c'est quand même lui qui m'a fait rentrer chez Sauber. J'avais une très bonne relation avec lui, donc c'est sûr que voilà, ça aide pas. Comme j'ai dit, maintenant j'ai fait avec. Je sais pas si maintenant ça peut m'aider aussi avec l'arrivée de Mattia Binotto, mais j'espère en tout cas. J'ai toujours essayé d'avoir une bonne relation avec chaque patron de chez Sauber. Maintenant, comme j'ai dit, personne m'a jamais mis en F1, donc ouais. Voilà, je sais que ça va pas être simple.
C'est un monde de fou quand même, Théo, la F1, parce qu'on a l'impression que y a tout ce qui se passe sur la piste, il y a tellement de choses dans les coulisses, dans l'extra sportif que vous devez gérer. Alors même si vous êtes entouré, mais il y a tellement de choses, de paramètres à prendre en compte, un facteur chance aussi. Ça doit être au niveau émotionnel, ça doit être dingue.
Ouais, c'est dingue, parce que c'est vrai que de l'extérieur, si on connaît pas trop le sport, juste on le suit par voilà, parce que c'est cool, c'est un sport vraiment magnifique à regarder et à faire aussi. J'ai extrêmement de chance d'être pilote, j'adore ce que je fais tous les jours, mais il y a beaucoup de moments compliqués. Et c'est voilà, j'ai envie de dire que la place du sport au final elle est pas si grande que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes, voilà, c'est pas que les résultats qui comptent, on le voit, mais les gens se soucient pas trop de ça, parce que quand on regarde à la télé, on apprécie juste le moment, on regarde les pilotes faire des belles courses, mais derrière c'est vraiment un milieu compliqué, ouais.
Non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on te fasse une campagne de pub, en fait, avec des affiches aux pourchères un peu partout. C'est ça qui manque.
J'aimerais bien. Il faudrait un gros soutien de la France. Ça m'aiderait beaucoup.
Il n'y a pas LVMH, un groupe français qui vient d'arriver un petit peu en Formule 1?
Bien sûr.
T'as pas leur numéro, Théo?
J'ai pas leur numéro, malheureusement, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Ce serait une aide incroyable. J'ai vu qu'ils avaient signé un partenariat avec la F1, donc c'est sûr que ça ferait du bien. Hein, honnêtement, ça aiderait. Franchement, ça serait vraiment une clé hyper importante.
Bah, on passe un appel, hein, s'ils nous écoutent.
Et puis qui sponsorise aussi le paddock, puisqu'on en est là.
Ah bah allez,
le Grand Prix de France aussi.
Et le Grand Prix de France, voilà. Relancer la F1 en France, racheter Alpine aussi, racheter Viry.
nous on n'est pas contre un petit billet, s'ils nous entendent. Financer Théo en priorité. Théo en priorité, et après nous derrière on ramasse les miettes.
On s'arrange ensemble.
Avec plaisir.
Les gars, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Théo sur sa saison? Et puis on va se projeter un peu sur la fin de saison en Formule 1, parce que Théo, mine de rien, il est un peu dans le paddock, il connaît les mecs, il voit ce qui se passe. J'imagine, Théo, que toi tu suis toutes les courses, t'es un dingue de F1. Est-ce que vous avez des questions à poser à Théo?
Perso, non. On attend. On est dans l'attente. Hein, donc,
ouais, bah non, bah nous on n'a pas. C'est pas une question, c'est un souhait. C'est qu'on veut le revoir derrière un volant, et c'est idéalement F1. Mais maintenant, ça va être chaud. Ça va être chaud.
Est-ce qu'il y a une deadline, pour toi où tu te dis à partir de tel moment, si Sauber n'officialise pas, il faut quand même que je commence à penser à un plan B pour 2025
bah, après, pour être 100% honnête, j'ai déjà travaillé sur, sur pas mal de plans différents pour l'an prochain. Il n'y a pas énormément beaucoup d'opportunités non plus. Mais oui, j'ai déjà plusieurs, plusieurs plans hein, pour l'an prochain. Après, voilà, je suis aussi un peu dans l'attente de Sauber, quoi qu'il arrive, parce que je suis en contrat avec, avec Sauber. Et je ne peux pas prendre de décision moi-même sans avoir leur accord ou alors qu'on ait trouvé un accord commun pour différentes, différentes solutions.
Mais okay. Qu'est-ce qu'ils font Sauber là les gars? Alors ça Théo tu peux pas répondre à cette question, mais qu'est-ce qu'ils attendent là? Moi c'est la question que je me pose parce que déjà la visibilité, Hamza t'en parlait, t'as deux pilotes de réserve et tu les mets pas dans la première FP1.
Malone l'année prochaine il a signé je crois en Formule E.
Exactement. Donc,
voilà. En fait, le choix du pilote va déterminer quand même beaucoup de choses. J'aime beaucoup moi personnellement ce que fait Colapinto chez Williams en l'espace de quoi 4-5 courses. Mais c'est un pilote Williams, t'as déjà ton jeune pilote. Comme je le disais tout à l'heure, les jeunes, dès que tu les mets en F1, on l'avait aussi avec Piastri, à peine 3, 4, 5 courses d'adaptation et puis ensuite ça, ça commence à embrayer et à performer. Encore une fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une génération de jeunes pilotes qui n'a pas vraiment besoin de temps pour performer. Il faut juste leur donner cette opportunité. Donc c'est vrai que si demain, le choix de Sauber se dirige vers un jeune, je comprendrais pas trop. Sincèrement, je comprendrais pas trop.
Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est là que qu'on embrasse Jean-Luc Roy qui nous aurait dit que le gros problème de la F1, c'est d'avoir aussi peu de baquets et qu'il faut absolument élargir
sûr,
à d'autres.
Il faut 4 voitures de plus, comme ça, tu pourrais mettre 4 jeunes.
Ah, mais, tu sais quoi, je suis même pas sûr. Je pense que les 4 baquets en plus, t'en auras peut-être 3 pour des pilotes
payants.
Ouais, qui seraient limogés en cours de saison. Ouais. Et puis ensuite, tu mettrais un autre jeune. Et puis, en fait, le jeune, il est pas trop mal. Bah, peut-être qu'on va le garder. Mais voilà, que veux-tu? C'est le monde dans la F1 dans lequel on vit.
C'est la Formule 1 moderne.
Non, mais ce qui est parfois, ce qui est frustrant dans ce que dit Hamza, c'est que quand t'as un programme de jeunes pilotes, ça arrive aussi que la pépite soit ailleurs que chez toi et que tu te dises bon bah je vais prendre un mec plus rapide, quitte à prendre quelqu'un qui n'est pas de mon giron. Mais là, ton jeune pilote Théo, il a quand même montré qu'il n'était pas un pilote lambda, dans un programme jeune. Donc pour moi, comme dit Hamza, ça serait une évidence. Si tu choisis un jeune, si c'est pas Théo, c'est bizarre. Si tu choisis un vieux, bon bah Théo, il se dira bon bah c'était juste pas le plan quoi. Mais c'est vrai qu'un jeune, on t'attendrait toi quoi en fait, puisque.
Non mais de toute manière, je pense qu'il y a peut-être d'ailleurs un épisode du paddock à faire sur ça, mais. T'es limite dans l'hypocrisie en fait avec ces programmes jeunes parce que t'as pas de place pour les jeunes en Formule 1 donc tu te demandes à quoi. Nous c'est vrai que c'est à chaque fois ça nous fait des thèmes à aborder dans tous les sens, c'est magnifique la 6 saisons, on se fait des projections, on se dit lui il va y être, c'est dingue ce qui se passe en F2, il y a des talents dans tous les sens, il y a des jeunes de 16 ans maintenant qui sont capables de gagner des courses, tu te dis que c'est fou et au final c'est pas ouvert derrière. Donc t'as la sensation que c'est une hypocrisie totale en fait, un petit peu tous ces à côté qui sont mis sur les week-ends de course de Formule 1. Donc c'est vrai que ça doit être très frustrant
à gérer. T'as de plus en plus de jeunes chaque année qui performent et t'as de moins en moins de place puisque celui qui arrive en Formule 1, logiquement il est là pour au moins une grosse dizaine d'années. Tu vois, quand t'as un crack comme Hamilton, Verstappen, Alonso, je vais même pas en parler parce que lui c'est une anomalie, mais une carrière de F1 finalement c'est 10, 12, 15 ans. T'as 20 baquets. Donc forcément, chaque année, on va dire que... Non, même pas chaque année. Tous les 3-4 ans, t'en as peut-être 7 à... Même pas, peut-être 5 à 9 qui se renouvellent selon les générations. Donc, et entre-temps, sur ce même laps de temps de 3-4 ans, t'as beaucoup plus que 5 à 9 jeunes pilotes qui te montrent qu'ils ont potentiellement leur place en Formule 1 ou qui méritent au moins une chance.
À un moment, c'est des maths.
Ça doit être extrêmement frustrant. Bon, Théo, comment tu la vois cette fin de saison en Formule 1? Parce que pour le coup, on se régale. C'est assez dingue ce qui se passe. Peut-être une des plus belles saisons depuis, j'allais dire de l'histoire. Bon, je sais pas, c'est peut-être pas, mais en tout cas, en termes de suspense, on se régale. Chaque week-end, t'as l'impression que c'est un mec différent qui peut gagner. Il y a du suspense au niveau du championnat des pilotes, au niveau des constructeurs, il y a tout qui s'inverse avec Red Bull qui est un peu en train de s'effondrer, McLaren qui prend le dessus. Comment tu vis ça, toi?
Ouais, franchement, c'est super intéressant. C'est une belle saison. Et ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que Verstappen, il avait fait un écart monstrueux en début d'année. Si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'on aurait un leader du championnat différent aujourd'hui, ça c'est sûr. Après, ils étaient super forts. Hein, on peut pas leur enlever qu'ils étaient super forts en début d'année. Mais là, le fait que McLaren ait une voiture vraiment exceptionnelle et deux très bons pilotes aussi, ils sont de retour dans le match. On a Ferrari qui est là, on a Mercedes qui est là de temps en temps. C'est beau. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve qu'il y a vraiment du spectacle. Il y a toujours un vainqueur plus ou moins. Pas tout le temps différent, mais bon, on a la chance, comme j'ai dit, chez McLaren, les deux pilotes peuvent se battre pour la victoire, chez Ferrari aussi, et chez Red Bull, on a Verstappen qui est tout le temps là. Donc, ça, franchement, ça va être serré jusqu'à la fin de saison. Je pense que le championnat constructeur, pour moi, c'est clair que ce ne sera pas pour Red Bull. Le championnat pilote, par contre, ça risque d'être compliqué, mais ça dépend vraiment des aléas. Et puis, la chance de Norris, c'est qu'il y a aussi beaucoup de courses sprint jusqu'à la fin de l'année. Si vraiment il est vraiment impressionnant et qu'il arrive à gagner la sprint plus la course longue, là oui, là il peut avoir une chance de se battre jusqu'à Abu Dhabi. Ouais.
T'arrives à échanger un peu avec les mecs, est-ce que t'es proche de certains pilotes, peut-être les Français, Ocon, Gasly dans le paddock, ou c'est compliqué quand t'es sur un week-end de course?
Au final, c'est assez compliqué parce que les paddocks en fait de F1, c'est tellement grand et les équipes sont tellement grandes aussi qu'on reste dans son équipe. On va pas forcément se balader dans le paddock et voir les autres pilotes. Moi, j'ai plus de communication avec les pilotes de chez Steak, Zou et Bottas, parce que quand je fais les débriefings d'après-session, tout ça, je suis tout le temps avec eux. Et on discute un peu, mais les autres pilotes, après moi je connais bien, je connais un peu Gasly, Ocon, parce qu'on se croit souvent aux soirées de remise des prix avec de la Fédération Française à Paris, donc on se connaît bien sûr. Je pense qu'ils surveillent toujours les catégories inférieures, ils regardent et puis ils savent qui on est, donc c'est cool.
Ils sont pas trop au fond du saut là, Zou et Bottas, quand vous faites vos débriefs après la saison, c'est compliqué pour eux.
C'est très compliqué, franchement. C'est vrai que l'ambiance dans l'équipe, elle est pas incroyable. On va pas se mentir. Quand j'y suis retourné à Monza, c'est vrai que je trouvais l'ambiance un peu, vraiment. Un peu lourde. Après, je peux comprendre. C'est vrai que c'est une saison là où on est à zéro point avant d'attaquer les dernières courses de la saison. Je pense pas que ça puisse s'améliorer, honnêtement, parce que tout le monde a apporté des améliorations. Et puis, c'est des circuits qui vont être très compliqués, à part s'il se passe, s'il y a vraiment le chaos sur une course. Mais encore, franchement, il faut qu'il y ait un énorme souci, parce que là, on est, c'est vraiment loin cette année.
T'as la sensation qu'ils ont fait, je vais une croix sur la saison 2024, et qu'ils sont déjà dans l'après, là, ils sont déjà dans le projet Audi.
Honnêtement, c'est une bonne question. Je pense qu'il a manqué beaucoup de stabilité dans l'équipe. Le fait de changer beaucoup de personnel, de patron. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que aussi il y a des moments Audi pouvait se retirer. Enfin, je pense aux gens qui regardent ça, que ce soit les mécanos, les ingénieurs. Ça met de doute à beaucoup de personnes. Donc c'est sûr que c'était pas une année stable. Donc pour la performance, c'est certainement pas bon. Et ils l'ont payé direct. Malheureusement aussi, on l'a vu, les arrêts au stand en début d'année, c'était catastrophique. Franchement, de voir ça, c'est compliqué, quoi. Surtout quand tu mets beaucoup d'efforts pour préparer une saison, que la voiture elle est pas bonne et que du coup, vraiment, les détails vont faire la différence. Et que tu fais des arrêts au stand 10 secondes plus long que tout le monde, là ça démoralise les gens, c'est compliqué, c'est une équipe, c'est vraiment sur les détails. Je pense que les pilotes aussi doivent faire la différence sur ça, je pense que les pilotes doivent motiver les gens et doivent aussi les pousser, vraiment, tu dois pousser ton équipe à être meilleure, à croire en soi, que ce soit les mécanos, les ingénieurs comme j'ai dit, que ce soit les gens à l'usine qui développent des pièces, qui fabriquent des pièces. Il y a tellement de monde dans une équipe de F1. Faut vraiment que ça vienne, je pense, aussi des pilotes et du patron de l'équipe, enfin voilà, des dirigeants de l'équipe. Hein. Je parle des plus grandes têtes de l'équipe, quoi.
Ouais, bien sûr. Grand Prix d'Austin, les gars, à venir dans 10 jours, une dizaine de jours. Qu'est-ce qu'on en attend là, Louis, Hamza, un petit peu? Déjà, c'est le retour de la Formule 1, parce que cette pause, elle est longue, hein, quand même, hein, mine de rien. On est impatients.
Ils font des triple headers et après, ils s'arrêtent un mois. pas bizarre, mais bon, après, tant mieux. J'avais lu au moment de cette pause que quand même beaucoup de... On pense toujours aux mécanos, aux ingénieurs, tout ça, qui eux s'arrêtent jamais quasiment pendant 9 mois. Des coupures comme ça, ça fait du bien. Après, c'était pas une coupure comme l'été où tu dois arrêter de bosser. Donc j'imagine qu'ils étaient quand même au charbon. Mais je pense quand même que quand t'as pas les déplacements, les week-ends de course, c'est quand même un petit peu moins usant. Donc ça, c'est une bonne chose pour la F1. Austin, moi, j'en attends quoi? J'en attends clairement une victoire de Norris avec tous les points pour donner une fin de saison de plus en plus folle. Parce que si à Austin, t'as un Norris qui a un problème de fiabilité ou une course moyenne, bon, bah, la fin de saison, après, y a moyen que ça déroule un peu, quoi. Tu vois, genre, moi, je veux vraiment... t'as envie de vibrer un peu parce que ça fait quand même 2 ans qu'on vibrait plus trop. Donc là, deux voire 3 écuries, une belle course et puis Norris pour ça, quoi, pour un resserré au classement.
On parlait d'élargir un petit peu le paddock, de faire entrer des équipes. Il y a peut-être eu, Hamza, une nouvelle qui va dans le sens d'Andretti. En tout cas, il y a une décision de la justice américaine qui a écarté un personnage clivant d'Andretti, qui laisse penser que c'est peut-être un signal envoyé à Liberty Media, à la FOM aussi, pour intégrer cette équipe en Formule 1. Je vous en parle parce que c'est le souhait de notre Jean-Luc Roy à nous depuis... il en parle à chaque épisode du paddock, je crois, Jean-Luc. Donc, mais ce serait cool d'avoir Andretti en F1 quand même. C'est un monstre du sport auto.
Oui, bien sûr. Après, un gâteau que tu partages en 10 parts, c'est pas la même chose qu'un gâteau que tu partages.
On est vraiment des bébés, Jean-Luc.
En 11 parts. Donc, je te le dis sincèrement, comme je le pense, ils trouveront n'importe quel prétexte pour empêcher l'arrivée d'une 11e. Le problème, c'est pas Andretti. Si Andretti doit racheter Alpine, par exemple, je pense qu'il serait ravi d'accueillir Andretti. Le problème, c'est de partager le gâteau avec un arrivant supplémentaire. Donc si l'argument c'est ils nous ramènent de la pluie, ils vont tous dire il pleut, il va pleuvoir, ça veut dire qu'on peut pas avoir Andretti. Je te dis vraiment, je pense que n'importe quel prétexte sera bon pour écarter une 11e écurie en Formule 1.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actu un petit peu là? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? On a fait le tour. Théo, on va te remercier d'être venu dans le paddock. C'était trop cool de t'avoir. On te souhaite plein de bonnes choses. On espère que tu vas retrouver rapidement un volant. On espère te voir rouler rapidement. Tu reviens nous voir quand tu veux dans le paddock, pour les bonnes
avec
nouvelles. Dès que tu as des choses à dire, tu viens nous voir. Hamza et Louis, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous mettre une petite note pour ce podcast spécial avec Théo Pourchaire. Et puis on vous dit à très vite. Petit épisode la semaine prochaine avant le retour de la Formule 1 à Austin aux États-Unis pour lancer le sprint final de cette fin de saison. Bye bye.
Le paddock RMC.